Bouger 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On va faire une façade de l'extrême droite acceptable. Puis derrière, il y a les fascistes. La droite révolutionnaire, la droite fasciste, qui a rien abdiqué de sa conception de la société qu'elle souhaite. Profondément inégalitaire, élitiste, hiérarchique. Or, cette idéologie de l'inégalité parmi les hommes, elle est favorisée par l'individualisme, l'arrivisme développé par la société capitaliste ultra-libérale. C'est sur ce terreau de l'individualisme, de l'abandon des solidarités, de l'oubli de la lutte des classes, des solidarités sociales, que fleurit l'idée que, oui, effectivement, les hommes sont inégaux. Cet avenir fasciste que je crains, il est favorisé aujourd'hui. Il est possible. Et donc, le combat contre le Front National consiste pas à stigmatiser un Front National caricaturé, mais à combattre ses idées. Et combattre le Front National, c'est combattre le libéralisme aussi.
Pour combattre le fascisme, il faut donc combattre le système capitaliste. Cette analyse, notre ami André aurait pu la faire hier. Mais ce que vous venez d'entendre date de 2011, première diffusion de cette émission produite lors du congrès que le Front National a tenu à Tours, et au cours duquel Le Pen père a passé le pouvoir à sa fille avant de se faire dégager par cette dernière. On a trouvé intéressant de ressortir cette série d'émissions dont c'est aujourd'hui le second épisode consacré au supposé programme économique de l'ex-Front et désormais Rassemblement National. Que disions-nous du FN et de la France de 2011 avec nos deux profs, André donc, prof d'histoire géo, et Michel, prof d'économie. L'occasion aussi de se souvenir à quoi ressemblait cette émission en 2011, en une époque où on produisait encore des trucages sonores et autres détournements de discours politiques en mode Polémix, manie qui a fini par nous passer. Salut, c'est JBD et on fouille dans les archives de la voix off aujourd'hui. Le Front National de 2011 a-t-il un programme économique ? Deuxième épisode, on rembobine la bande jusqu'en 2011.
La voix off.
Et une polémique.
Tout est bidon.
Caricaturé. Et quel est le réel ? Est-ce que je dis la vérité ou
oui,
pas ?
Oui, oui.
Non.
Il s'agit d'un trucage.
Ça va peut-être vous étonner, mais monsieur Sarkozy, croyez-moi, et s'il votait, il voterait Le Pen. Voilà, monsieur Sarkozy, il est un député du Front National. Il se le pénise, ce petit. Eh bien, c'est bien.
Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois ça ?
Nicolas Sarkozy décide de supprimer nos fromages qui puent. Eh bien, il n'y aura plus de fromage. Voilà, c'est aussi simple que ça.
La voix off et Polémix.
Polémix, ça, vous adorez ça et vous vous frottez les mains.
C'est réalisé avec trucage.
J'accueille Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, vous êtes particulièrement inhumaine.
Oui.
Et vice-présidente du Front Grognonieux.
Oui, parce que je suis immonde. Je veux dire, c'est horrible, quoi.
Vous avez poussé votre père, Jean-Marie Le Pen, à boire pour le tuer et pour hériter.
Oui, mais et alors ? Ça n'a pas changé grand-chose, très objectivement. Par conséquent, mon père a pris un petit garçon d'un an, l'a mis dans un tiroir et l'a oublié. Bon.
Alors que votre père, vous dites qu'il a éventré vos deux sœurs.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il nous a élevés dans l'idée de la mort la plus violente.
Alors là, vous réalisez d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, que votre père est nazi quand même.
Oui, je me rends compte que je suis la fille d'un homme parfaitement inadmissible. Cette espèce de monstre, j'ai compris après qu'il éventrait les petits-enfants et je pense que dans toutes les familles, ça peut se passer comme ça. C'est vrai que éventrer les enfants, c'est pas si dramatique que ça. C'est une bonne leçon de vie, je trouve.
Ouais. Alors, comme votre père pose habillé en soubrette dans Playboy...
Les humoristes, oui, je vous cache pas.
Vous commencez à avoir une vraie relation avec lui.
Oui, c'est vrai que le côté rire graveleux, on ouvre le Playboy, on est très intime. Bon, c'est super rigolo.
Et là, vous, il vous explose avec vos deux sœurs. Pourquoi ?
Bah parce que j'ai compris après qu'il était un danger, effectivement, éminemment destructeur. Et encore aujourd'hui. Il a intégralement éventré ma mère. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Je pense que ça arrive dans d'autres familles.
Ça la fout mal quand même, quoi.
Ouais, ça la fout un peu mal.
Alors, pendant deux semaines, vous allez boire.
J'ai pris un jour de la drogue très dure.
Ouais.
C'est au moment de l'attentat de la rue Copernic. Les copains arrivaient, ils partaient jusqu'à 4h du matin pour refaire le monstre, encore une fois, qui fait peur aux petits-enfants. Ils ne savaient jamais combien on serait à dîner. Ma mère faisait des pâtes pour la terre entière. Bon.
Alors, en 1991, vous devenez homo et immigré en situation irrégulière.
Oui, je me suis inscrite.
Ouais.
Jean-Marie Le Pen, qui a eu son premier rapport sexuel et oups, qui a oublié sa pilule, je pense que c'est un mythe.
Il est dit des champs nazis. Son grand pote, c'est Léon Gauthier qui était dans la Waffen SS. Enfin, je veux dire, ce type est un nazi.
Non, mais très probablement, c'est dommage. Je suis malheureuse, ouais. mais voilà, c'est la merde. C'est terrible. Moi, j'ai tellement honte. Je vais partir au Pôle Nord, je sais pas.
Salut tout le monde, la voix off reportage avec nos amis André, l'historien, et Michel, notre prof d'éco et de droit. C'est la seconde partie de cette série dédiée au Front National et à son soi-disant programme économique. On continue pendant une heure à parler d'extrême droite et d'économie, et André qui ouvre le feu.
Il est facile de dire, ah, salauds de pauvres, connards de pauvres, qui vont voter Front National après avoir voté communiste ou socialiste. Mais enfin, qui souffre ? Qui est dans la merde actuellement ? Pas les bobos qui sont passés à l'ENA ou à Sciences Po, etc. et qui usent leur fond de culotte dans les ministères. C'est pas ces gens-là. Les gens qui souffrent, c'est la classe ouvrière, ce sont les travailleurs, les employés. Ces gens-là souffrent atrocement. Et on leur dit, bah oui, peut-être dans quelques années, la Bulgarie sera à notre niveau.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Quelle vision de l'Europe défendez-vous ?
Une Europe de la barbarie. Une Europe qui permette à chaque État-nation de prendre le pouvoir contre les peuples. Un super État totalitaire, dramatique.
Si tout se passe bien, si l'Europe continue dans sa voie harmonieuse, on va aligner les pays les plus pauvres d'Europe sur le niveau européen. Pendant ce temps-là, mais qui souffre ? Et ces gens qui souffrent, ben, ils expriment leur colère. Certes, c'est une façon bête, stupide de manifester cette colère que de voter pour la droite, pour échapper à la droite. Bon, ça fait idiot. Mais moi, je ne mettrais pas au même titre les gens qui les trompent et ces gens qui sont trompés. Je ne les mettrais pas dans le même sac. Il est facile hein, d'être intelligent, de voir le danger de l'extrême droite, anti-humaniste, etc. Mais l'humanisme, pour des gens qui sont pauvres, ça n'a pas de sens.
Bien que M. Le Pen soit votre père, êtes-vous toujours en accord avec ses propos ?
Ah, pas du tout. Jean-Marie Le Pen, il ment aux Français. Et voilà. Et je crois que Jean-Marie Le Pen a envie de mourir pour faire du mal au Front National.
Oui. Ça vous réjouit ?
Ah oui, incontestablement. Voilà.
C'est un montage.
Moi, je suis frappé par une chose lorsque j'étudie soit l'histoire de cette droite extrême révolutionnaire et l'actuel Front National. Il y a un point fondamental qui me paraît éclairer l'ensemble de la pensée et du discours de ces gens-là. C'est le refus de l'idée de lutte des classes. Et je pense que tout découle de cette chose-là. Bon. La lutte des classes, vous le savez, c'est un point essentiel de la théorie et de l'analyse de Marx. Toute société, en particulier société moderne, capitaliste, sont dominées par un conflit entre deux classes antagonistes. Ce qui domine de façon écrasante l'idéologie, les propos des gens qu'on entend ici et à droite, c'est soit l'ignorance volontaire, soit l'ignorance involontaire de cette chose qui effectivement est une évidence, Il y a des gens qui travaillent et qui vivent de leur travail et d'autres qui vivent de l'exploitation de ce travail. Et ça, on ne sort pas de là. Et vous avez remarqué que dans cette analyse, il n'y a ni race, ni religion, ni sexe. C'est une chose qui dépasse totalement ces choses-là. C'est des classes sociales. Aujourd'hui, ce conflit domine la réalité de nos sociétés. Et pourtant, c'est totalement occulté. C'est occulté parce qu'en fait, c'est une idée qui est totalement révolutionnaire. Et à mon avis, elle est indépassable, totalement incontournable. Le discours du Front National, comme le discours de toute l'extrême droite, a été de nier, mais ne nier catégoriquement cette chose-là. Il existe pour ces gens-là quelque chose au-dessus de la lutte de classe, qui est la nation, la famille, le clan, la région. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui... la race. Tout le discours de ces gens-là est pour nier cette réalité et la remplacer par d'autres. Hein, Mussolini distinguait les nations plutocratiques des nations prolétaires. C'était une façon d'évacuer la lutte des classes. Tous ces régimes, quels qu'ils soient, Franco, Pétain, Mussolini, Hitler, etc., sont pour nier la lutte des classes et la remplacer par autre chose. En fait, ils ne nient pas une réalité parce qu'on ne peut pas évacuer une réalité qui existe. Simplement, on fait semblant qu'elle n'existe pas. Et en fait, on soumet la classe ouvrière à la classe exploitante. Toujours, toujours. Actuellement, regardez le discours du Front National. Il est de nier la réalité qu'il existe un capitalisme, international comme national d'ailleurs, qui n'a pas de nationalité particulière, hein, être exploité par un capitaliste américain, allemand, juif, noir, ou peu importe, si vous demandez à un prolétaire, vous préférez que votre patron soit une femme, un homme, un homosexuel, un hétéro, il s'en fout. Il est exploité. Le problème pour lui n'est pas du caractère racial, ethnique de son exploiteur. Il est du fait qu'il y a un exploiteur. Alors, comment dénoncer en même temps? C'est ça l'habileté aussi du discours du Front National. Dénoncer le capitalisme international sans jamais en parler. Sans jamais donner des noms, donner une réalité à ces banques, etc. Ça reste très vague. Ça l'a toujours été. Dans le discours pétainiste, dans le discours d'extrême droite, il y a un capitalisme cosmopolite. Il y a un capitalisme vague. On ne sait pas très bien, mais il domine. Mais on n'en parle pas. Je ne vois pas Le Pen dénoncer la banque catholique, car il y a une banque catholique, comme il y a une banque protestante, une banque juive, etc. Non, non. Mais c'est le nationalisme qui va prendre la place. Alors évidemment, ce nationalisme, je voudrais rebondir sur cette notion. Ce nationalisme qui nous a fait tant de mal, qui a été exploité par l'extrême droite, par la droite, à des moments tragiques de notre histoire, il prend corps avec ce qui nous est arrivé avec l'Europe. L'Europe qui prétendait avoir effacé les nations. Or, je vais encore faire de la provocation, je voudrais apparaître comme un affreux, mais la démocratie en France, la République en France est née dans un cadre national. La souveraineté du peuple a d'abord été une souveraineté nationale. L'idée de souveraineté nationale a sous-tendu notre conception de la démocratie et de la République. Et elle a permis l'expression du suffrage universel. Or, que nous propose l'Europe aujourd'hui? L'Europe qui prétend détruire, en tout cas effacer les nations, n'a pas pour autant institué une nation européenne et un suffrage universel européen. Donc, on nous demande d'abdiquer notre souveraineté nationale sans pour autant lui substituer une souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'on liquide la démocratie au niveau national sans instituer une démocratie européenne. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de politique européenne. Il n'y a pas de démocratie européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Mais il n'y a plus de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître de notre destin au niveau national sans pour autant l'être au niveau européen. C'est insupportable. Là, voilà le terreau du Front National. C'est du nanan. Ces gens-là vont gagner.
L'Europe, oui. C'est le oui ou le non.
Oui,
car...
Michel, la crise actuelle de l'euro en offre encore une illustration manifeste. Non seulement on a voulu faire une Europe qui se prétendait constructrice de paix, mais qui malgré tout repose sur la préservation des États-nations. Je n'ai rien contre un certain esprit national, évidemment, mais l'exacerbation des nationalismes est évidemment le terreau des conflits. Et là-dessus, le Front National est gagnant. Mais en plus, qu'entend-on aujourd'hui dans la bouche d'un certain nombre d'Allemands ? Il n'est pas question que nous, Allemands, qui sommes vertueux, qui faisons des excédents budgétaires et des excédents commerciaux à l'étranger, nous allions payer pour des nations, on n'est pas encore trop les traités de métèque parce que les Irlandais dedans.
En anglais, on dit pigs. Portugal, Italie, Grèce,
pour l'Italie,
Espagne.
Portugal, pour l'Espagne, on a sauvé l'Irlande, mais on ira guère plus loin, sans doute parce que les industriels allemands ont investi en Irlande et que ça leur rapporte. On en est là. Il faudrait quand même rappeler que l'Allemagne, qui aujourd'hui se présente comme l'élève vertueux, le modèle européen. L'Allemagne a fait payer sa réunification à la France. Puisqu'on parle de monnaie, il ne faudrait pas oublier que c'est M. Helmut Kohl, grand européen s'il en fut, et grand ami de M. Mitterrand, qui a dit, lors de la réunification, un marque de l'Est égale un marque de l'Ouest. Sur le plan monétaire, si on part du principe que la monnaie a pour contrepartie la richesse des nations, oser comparer la richesse de l'Allemagne de l'Ouest à la richesse de l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification est quelque chose de complètement absurde et même, comme le dit André à mes côtés, de malhonnête. Il n'empêche que là, c'est l'Europe qui a payé. Et les Allemands ont trouvé tout à fait normal que l'Europe paye pour ça. Et aujourd'hui, alors que en grande partie, leurs banques sont en train de détruire une partie de l'Europe, ils viendraient dire, il n'est pas question qu'on paye pour les autres. Je trouve que c'est pratiquer deux poids, deux mesures. Mais évidemment, face à des événements comme ça et face à la crainte que ça suscite, parce que je rappelle que le discours qui est tenu aujourd'hui, c'est de dire aujourd'hui l'Irlande, demain le Portugal, après-demain l'Espagne, et après ce sera la France. Je me mets dans la peau d'un travailleur français qui entend des gens lui dire ça, qui entend également qu'on va foutre en l'air la protection sociale française parce que c'est demandé par des agences de notation, ces mêmes agences de notation qu'on jouait aux gémonies dont on disait qu'elles étaient à la solde des banques, eh bien on a décidé de leur complaire en sabrant dans la politique sociale de la France, dont les retraites ne sont qu'un premier volet. Soyons tranquilles, derrière va y avoir la santé et l'hôpital.
La voix
off et une polémique.
Ce que je dis est choquant, caricatural et donc mérite d'être caricaturé.
Je suis décidé à m'engager personnellement dans la lutte contre notre protection sociale. Je me suis engagé à ce que le travail soit dévalorisé, que le mérite ne soit plus récompensé. Nous devons continuer à refuser toute augmentation sur le travail. Je confirme sans ambiguïté notre choix d'une fiscalité déloyale.
Si je compare, moi je suis né en 1960 dans un pays où l'hôpital était pratiquement gratuit, où mon grand-père avait la certitude de prendre sa retraite, où il serait certain qu'elle serait financée, où il ne pensait pas que ses enfants auraient des problèmes ou ses petits-enfants pour trouver un boulot. Donc nous venons d'une certaine sécurité sociale et aujourd'hui on nous dit mais il y a une montée de l'insécurité. Bien sûr qu'il y a une montée de l'insécurité, mais l'insécurité ressentie par les Français, c'est pas l'insécurité, la trouille de se faire piquer son portable au coin de la rue, certes. Malheureusement, ça existe. Mais la première des insécurités, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui se demandent ce qu'ils boufferont demain. Et malheureusement, il y a également 2 à 3 millions de Français qui savent ce qu'ils boufferont demain, ce qu'ils auront trouvé au Resto du Cœur. Donc, voilà aujourd'hui où nous en sommes, voilà d'où nous venons, et voilà tout un ensemble de destructions qui progressivement, petit à petit, ont été faites et qui expliquent qu'aujourd'hui, après le passage de la droite libérale giscardienne, puis de la gauche mitterrandienne, puis le retour de la chiroquie opportuniste et avec, je dirais, comme apothéose, le sarkozysme comme système de non-pensée politique, on arrive avec des gens qui, politiquement, ne savent plus vers quoi se retourner. Et je pense même qu'il y en a certains qui se disent « Bon, ben après tout, pourquoi ne pas essayer le Front National ? Ce sont les seuls qu'on n'a pas essayé. » Le seul problème, c'est que quand on fait ça, c'est un peu comme se mettre les doigts dans un moulin à café parce qu'on a perdu son coupe-ongle. Quand la bêtise est faite, l'histoire nous apprend qu'il est trop tard. Mais soyons clairs, objectivement, un certain nombre de facteurs internationaux comme nationaux, tenant aux partis de droite comme de gauche, concourent à la prolifération du Front National. La seule chose qui nous sauve aujourd'hui, c'est peut-être que le Front National, en tout cas ses dirigeants, qui pensent d'abord à leur intérêt personnel, ne se voient pas arriver au pouvoir. Heureusement.
Ces propos de Michel, notre prof d'éco, pourraient aujourd'hui sembler surprenants. Pas étonnant puisque nous sommes au cœur de la rediffusion d'une émission initialement produite en 2011, 9 ans après que Le Pen père soit arrivé au second tour de la présidentielle, 6 années avant que sa fille n'arrive elle aussi au second tour face à Macron. Et en réécoutant cette émission de 2011, on va réaliser à quel point les choses se sont dégradées depuis. À tel point qu'on n'a plus vraiment envie de rire et de faire des sketchs de Polémix.
La voix off et Polémix.
Il s'agit d'un truc
grogneux, n'est-ce pas? C'est Le Pen. Attendez, Tchoufa. Voilà.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Vous êtes zéro pour le Front National.
C'est vrai.
Putain, entrons dans votre logique, Marine Le Pen.
Bah, j'aimerais bien surtout un petit coup sur la triangulaire. Oh, voilà, c'est Marine. Au moment, et on sera très heureux de le faire. Le
Marine. Vrai,
mais écoutez, je craque.
Est-ce que ça n'est pas un peu carcérisé Nicolas Sarkozy?
Excusez-moi de vous dire que Nicolas Sarkozy décide de supprimer nos fromages qui puent la cule. Eh bien, il n'y aura plus de fromage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, Nicolas Sarkozy, il est parfaitement mini, quoi.
Abdelkader nous appelle de Marseille. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Bonjour, Marine Le Pen.
Bah non.
Enfin, c'est quand même un échec, hein, Marine Le Pen.
C'est pas très grave. Et par conséquent, voter pour Nicolas Sarkozy, mais c'est une évidence. Voilà.
La voix off
et Polémix.
C'est un montage.
J'espère que vous plaisantez.
On va pas jouer les pronostiqueurs de PMU. Cela dit, un deuxième tour avec une Marine Le Pen en 2012, ça s'est déjà vu en 2002 après tout.
Qu'allons-nous avoir en face? On va avoir de nouveau un morcellement des partis et donc le risque qu'on ait au deuxième tour un représentant de l'extrême droite avec en face, ça pourrait très bien être un autre représentant de la droite. Et de toute façon, je dirais que même ce qu'on présente comme la gauche aujourd'hui n'est pas forcément représentatif de ce que les gens de gauche souhaitent, car soyons clairs, on va convoquer le peuple de gauche pour sans doute désigner un futur candidat socialiste, mais à côté, il est clair qu'on ne convoque pas le peuple pour la préparation du programme, on va faire comme d'habitude, préparer un programme dont, comme le disait une certaine Ségolène Royal en 2007, on sait parfaitement qu'au moins un tiers n'est pas applicable. On va en faire dedans un autre tiers de mesures qui seront la continuité des mesures de la droite et à côté, on fera du cosmétique pour essayer de faire croire qu'on va préserver ce qui peut l'être. Mais je rappelle que déjà en 1983, un Premier ministre qui s'appelait Laurent Fabius avait expliqué comment il était bien obligé de lâcher la bride au travail intérimaire ou au travail en contrat à durée déterminée, tout simplement parce que c'était quand même de la création d'emplois et que la création d'emploi en CDI marquait le pas. On a mis ainsi le doigt dans un engrenage. Aujourd'hui, il y a 85%, voire 90% des postes de travail qui sont créés, qui sont uniquement du travail précaire. Donc, les gens sortent de la précarité du pôle emploi pour rentrer dans une précarité au travail. Normalement, le droit du travail interdit de signer des CDD ou d'embaucher des personnes en poste intérimaire pour des postes qui sont des postes à temps complet. En réalité, aujourd'hui, des grandes boîtes comme Renault ou Peugeot gèrent leur intérim et leur CDD qui est pour eux une donnée, un élément fixe de gestion. Ils savent parfaitement que pour faire fonctionner leur ligne de production, disons 3 semaines par mois, ils vont embaucher un intérimaire. Ils savent qui c'est, ils sont pas fous, ils ont des logiciels de gestion, ils respecteront le délai de carence. La personne sait parfaitement qu'il sera remercié au bout de 2 semaines. 2 semaines plus tard, on le rappellera pour travailler, et ainsi de suite. Cette personne qui officiellement est un intérimaire est en réalité employée de façon stable dans l'entreprise. Mais comme les ficelles de la loi sont bien utilisées, on fait du précaire qui est stable. On peut ensuite se demander si ce précaire ne se demande pas s'il y a des choses à faire. Alors après, quand il y a quelqu'un qui lui dit « on va faire la révolution », il regarde plus forcément l'étiquette. Il se dit « je suis pour la révolution ».
Mesdames et messieurs, c'est la révolution. Vive la révolution.
Moi, je pense que une grande partie de la jeunesse peut être sensible au discours du Front National. Sais-tu fondamentalement à ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire ce désespoir, cette précarisation, c'est dû aussi à l'oubli de l'histoire, mais après tout, hein, qui est responsable de cette dégradation de l'apprentissage de l'histoire, de notre histoire? C'est dû au fait aussi que 30 ans de libéralisme ont casser le mouvement ouvrier, les syndicats, l'esprit, la conscience de classe, chez les jeunes en particulier, cette conscience de classe, cette conscience de la lutte des classes disparue. Et elle est remplacée par quoi? Par la colère manipulée. Or, qui manipule le mieux l'opinion publique? Il est bien évident que les solutions du Front National sont plus faciles à donner que les solutions du Front de Gauche, des communistes, etc. C'est plus simple. Il n'y a qu'à. Et puis, il y a aussi une chose, un résultat, c'est que vous avez toute une partie des travailleurs, des employés qui sont à la limite de la misère. Ils sont sur le fil du rasoir. Ils peuvent basculer d'un moment à l'autre, perdre leur emploi, avoir un accident, quelconque de la vie. Et cet accident de la vie, ça les fait basculer dans la misère. Ces gens qui sont à la limite, qui ont acheté un petit pavillon dans une zone périphérique avec une ou deux mauvaises voitures pour aller au travail, en cumulant deux salaires avec des salaires de misère, ces gens qui sont vraiment aux limites, qui remboursent péniblement leurs prêts pour avoir leur maison, ces gens sont une clientèle du Front National. Dans les environs de Tours, il y a des petits patelins que je ne nommerai pas, je ne veux pas faire de tort à leurs habitants, mais où il n'y a pas la queue d'un arabe, et qui ont voté à 30-35% Front National. Donc le problème, c'est pas le problème de l'arabe, c'est pas le problème du discours raciste, on le voit bien. Donc les gens qui nous brandissent un épouvantail nazi, etc. Pour... Certes, le Front National véhicule des idées nazies, sur le fond, mais c'est pas pour ça qu'ils vont gagner. Ils vont gagner parce qu'il y a une crise sociale et parce qu'en face, il n'y a pas une gauche suffisamment forte.
Donc une Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2012...
Ah oui, c'est une hypothèse tout à fait envisageable. C'est sinistre, mais c'est envisageable. Il faut être lucide. Il ne faut pas se cacher la vérité. On est un peu au fond du trou et ça va être vraiment déterminant. Vu la pauvreté du débat politique en France, c'est extrêmement inquiétant. Vous imaginez 20 ans avec des sinistres guignols comme ça. Vous imaginez Sarkozy en pire?
Non.
Mais si, ça peut. On peut faire pire. Vous savez, bon, on pouvait encore imaginer, il y a 50 ans ou 60 ans, une partie de la bourgeoisie ayant un sursaut humaniste, un sursaut rationaliste, libéral, républicain, etc., et s'élevant contre le danger de la bête noire fasciste. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'état de bourgeoisie, vulgarité, la bêtise, l'inculture de ces gens-là, les gens à Rolex et compagnie, vous dites, mais ces gens-là vont pas faire barrage à la bête immonde? Certainement pas. Ça sera encore les mêmes pour monter sur les barricades. Vous savez, les totalitaires, vous connaissez,
Toujours à l'écoute de la rediffusion de cette émission produite en 2011, vous avez entendu, en 2011, on envisageait comme tout à fait possible que, comme son père en 2002, Marine Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Ça n'a pas été le cas en 2012, mais en 2017 et en 2022 donc. Mais en 2011, les idées du Front National étaient déjà au pouvoir avec Sarkozy, qui a fait d'ailleurs les riches heures des sketchs de polémique, c'est la voix off.
J'aime Monsieur Le Pen. Je voudrais dire à Monsieur Le Pen que je me sens aussi Le Pen que lui. Je suis aussi attaché que lui à Le Pen. Et je lui dis de toutes les forces de mon tempérament que la France est plus forte à la tête de Le Pen. Et figurez-vous, Monsieur Le Pen, j'aime Monsieur Le Pen.
La voix
off et polémique.
Je trouve que c'est scandaleux, car
il s'agit d'un trucage. Bon.
On peut être un républicain et proposer une alternative forte. Parce que Le Pen représente un espoir quand même. Les gens sont lucides. Parce que nous les avons désespérés dans le passé. Et je dis que quand quelqu'un rentre dans un bus et insulte Jean-Marie Le Pen, la République ne peut pas accepter ça. Parce que si une semaine on accepte ça, la semaine prochaine, quand Jean-Marie Le Pen sera frappé, qu'est-ce qu'on dira?
Mais il y a 50 gouvernements ont été en guerre aujourd'hui.
Bien sûr. Et alors?
Il y a une responsabilité quand même. Si Jean-Marie Le Pen est toujours aussi haut, on va dire. Mais...
Non, vous savez, ce que vous nous racontez comme histoire, c'est particulièrement inadmissible. Je dis aux Français, à tous les Français, pour les 5 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on propose? Jean-Marie Le Pen, c'est formidable. C'est pas pour attaquer qui que ce soit.
Vous savez, si Jean-Marie Le Pen dit qu'il préfère le soleil à la pluie, qui l'aurait compris? Dois-je préférer la pluie? Non, parce que les mots ont un sens, voyez-vous. La pluie, ça n'a pas de sens. En revanche, de mon côté, moi je pense que la pluie n'aurait pas fait autant de victimes. C'est parce que la pluie, c'est une insulte. Et je voudrais qu'on m'explique au nom de quoi la pluie, ça vous bouffe la vie.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
C'est la galéjade.
20h. 21 avril 2002. Cette fois-ci, ce n'est hélas pas un trucage.
Estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
J'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national.
Premier tour de l'élection présidentielle, la caméra est sur la tête de Jean-Marie Le Pen, qui apprend qu'il est au deuxième tour. Et au moment où toutes ses troupes s'enflamment de joie, on voit le vieux Le Pen qui fait la tronche, et sur sa tronche, tout de suite, c'est marqué « Je vais me prendre une pilée au deuxième tour ». À peine les chiffres du premier tour annoncés, Le Pen a compris qu'il va se prendre une branlée au deuxième. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont quand même dans l'arène politique?
Alors, être dans l'arène politique, encore une fois, c'est une façon de gagner de l'argent. Je rappellerai simplement qu'un parti politique n'a pas le droit de recevoir des legs. En revanche, lorsque des personnes ont des idées d'extrême droite, on leur recommande de coucher M. Jean-Marie Le Pen sur leur testament. C'est ainsi qu'il a hérité d'un producteur de ciment fortuné qui s'appelle M. Lambert, ce qui lui a donné le départ de sa deuxième carrière politique. Car Le Pen, ne l'oublions pas, a fait une première carrière politique sous la quatrième. Il a été député et il a été également militaire en Algérie. Donc, c'est évidemment un moyen de gagner de l'argent. Et puis, c'est une déconvenue, car en réalité, Le Pen se voit arriver à un endroit où il n'espérait pas arriver et où il ne souhaitait surtout pas arriver. Ses partisans, bien sûr, sont ravis, car ils se disent, peut-être, je n'ose y croire, on va gagner, mais en tout cas, ils se disent, nous avons vaincu les socialo-communistes, pour employer leur vocabulaire. En réalité, le véritable ennemi de l'extrême droite, c'est essentiellement la droite. Pour l'instant, beaucoup plus que la gauche. La gauche ne lui pose pas de problème, la droite lui pose un problème. La droite a posé un problème, notamment sur le plan tactique, car M. Chirac, manifestement, avait fait des promesses à M. Le Pen qui, ensuite, n'ont pas été tenues. Raison pour laquelle M. Le Pen regardait d'un mauvais œil, si je puis me permettre ce jeu de mots, M. Chirac avoir un deuxième mandat. Il pense que M. Le Pen aurait préféré nettement se retrouver en face d'un candidat socialiste et c'était sans doute son projet. Il espérait sans doute participer à la déconfiture de son véritable ennemi, c'est-à-dire M. Chirac. Aujourd'hui, les sorties de Marine Le Pen vis-à-vis de M. Sarkozy ont le but d'aboutir exactement à la même chose. Se débarrasser de l'ennemi à droite, l'ennemi qui, dans un premier temps, a eu pour but de lui piquer ses idées, de lui piquer ses valeurs et de lui piquer sa clientèle. M. Sarkozy, d'ailleurs, ne s'en est jamais caché. Et la présence de M. Hortefeux, le lancement du débat sur l'identité nationale, le discours sur les Roms et d'autres choses, ont pour but de montrer qu'on est de la droite décomplexé, autrement dit de la droite qui n'a plus de soucis à se faire parce que le communisme a disparu, il n'y a plus de modèle alternatif de type URSS à supposer qu'à un moment elle ait été un modèle alternatif. Donc, on peut se lâcher et dire franchement que l'on veut une politique inégalitaire, que l'on veut d'abord protéger les riches, que les pauvres n'ont plus rien à réclamer contrairement à l'époque giscardienne, parce qu'à l'époque giscardienne, il y avait le danger rouge, il y avait un parti communiste fort. Un peu comme pourrait dire, et comme l'a dit Jacques Chirac avec ses 82% au deuxième tour, on peut tout se permettre. Et actuellement, soyons clairs, ils se permettent tout. Et nous avons vu que même un mouvement social fort, même un mécontentement profond, ne fait pas reculer un système qui, dans les institutions telles qu'elles sont organisées, organise en fait une véritable dictature de l'exécutif. Tocqueville craint, quand il écrit de la démocratie en Amérique, une dictature de la majorité. On n'est même plus dans la dictature de la majorité, on est dans l'existence d'une majorité qui justifie la dictature de l'exécutif, ce qui est effroyablement dangereux.
La voix poste.
C'est une polémique.
Ce que je dis est choquant, caricatural, et donc mérite d'être caricaturé.
Il s'agit d'un trucage.
Mais a-t-on vu quelque chose de plus accablant ?
Mesdames et messieurs, la République est révolue depuis longtemps. C'est vrai, je vous l'assure. Le président de la République et le roi de France, parce que le premier arrivé, le premier servi. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Hein ? Et donc, je suis roi de France au risque d'y sacrifier l'ensemble des ressources de la planète. Mais en plus, c'est ce que je pense. On se demande d'ailleurs qui a eu cette idée au fond ? Moi ? Et je voudrais d'ailleurs dire, oserais-je le dire, que je suis un génie français. Je ne dis pas ça pour une espèce de cocorico. Bon, enfin, voilà. Alors, chaque Français l'a bien compris, ce régime de roi de France doit perdurer tant que je serai président de la République. Mais c'est une excellente nouvelle. Hein ? Franchement, il n'y avait pas de quoi s'en choquer. Parce que les Français, eux, ils sont condamnés. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire ? Hein ? Eh bien, on ne peut rien faire. Et rétrospectivement, nos successeurs seront ébahis en découvrant l'égarement collectif de mon quinquennat. Voilà.
Normalement, le pouvoir législatif est indépendant. En France, non. Et c'est cet enjeu qui doit être bien compris, notamment dans le cadre de la présidentielle. L'élection du président de la République aujourd'hui, et dans la foulée naturellement d'une majorité parlementaire, n'est pas l'élection d'un simple chef d'État. C'est véritablement l'élection d'un dictateur potentiel. Il faut reconnaître, malgré tout, à M. Chirac, l'habileté de n'avoir pas su trop abuser de ce pouvoir, de s'être toujours abrité derrière un Premier ministre, et même s'il avait certaines idées politiques, de savoir ce Premier ministre afficher des idées qui n'étaient pas les siennes et prétendre même les appliquer. Aujourd'hui, ça n'est même plus le cas. Nous avons tout simplement une droite qui s'affirme, pas tout à fait comme totalitaire, mais presque. La seule chose qui manque, c'est les matraques et l'huile de ricin.
Nous sommes la droite.
Vous avez vu ce qui nous fait la droite ?
Notre route est droite. Nous sommes dans un état de droite.
La droite, c'est la régression sociale. La droite, c'est la jungle.
Nous sommes dans un état de droite. Et peut-être que j'aurai l'occasion de le redire. Et peut-être que j'aurai l'occasion de le redire. Et peut-être que j'aurai l'occasion de le redire. Peut-être que j'aurai l'occasion de le redire.
Nous n'avons pratiquement pas d'idée. Et même pas du tout.
Nous sommes la droite.
On dirait, mais les Français veulent pas.
Les Français veulent pas.
La droite, si ça ne marche pas.
Alors qu'est-ce qu'on fera ?
Luttons avec fermeté contre l'immense majorité des jeunes.
Les jeunes !
Eh bien maintenant c'est terminé.
Les jeunes,
c'est pas très bien élevé.
Ça c'est un fait certain.
Nous sommes la droite.
Je suis au RPR.
On peut s'embrasser ?
Non.
Ah bon, on peut pas.
Nous sommes la droite.
Marrons-nous, ça sent mauvais.
La droite.
Disons de droite.
La droite.
La droite méchante, conservatrice, il sera comme ça. Il n'y a rien à voir, circuler.
Circuler. Il n'y a rien à voir.
La droite.
Inquiète nos compatriotes. Pire encore.
la droite
apparaît comme une menace, comme peut-être jamais.
Au nom de Dieu.
Qui a rétabli l'aide personnalisée au logement pour les personnalités? C'est nous. Ceux-là, ils nous remercient. Qui multiplie le nombre de familles en difficulté? C'est nous. Qui s'occupe de licenciés? C'est nous. Avec les partenaires sociaux, nous tentons de résoudre ce problème après le parquet. Et moi, j'en ai marre. Textage, flatterie, TCDD.
Merci, monsieur le ministre.
C'est un nul.
Qui c'est qui a dit moi? Il y a une dame qui a dit moi. Alors, bon. Ah bon? Bon, je vous remercie.
La voix prouve.
Polémique.
Ils sont dans quel état? Vous croyez qu'ils sont pas aux antidépresseurs toute la journée? Ils se battent tout le temps entre eux, c'est dramatique.
Faites attention.
Attention, il s'agit d'un trucage.
Mes chers sujets, vous m'avez élu pour rien. Mais mes chers compatriotes, ceux qui attendent une réaction ferme de ma part ne seront pas déçus. Nous avons fait le choix de la violence la plus brutale, sans vergogne. Nous devons continuer. Je me suis engagé à confisquer tous les leviers de l'État, mais mon devoir est de garantir la crise, le sectarisme. Le Premier ministre François Fillon et le gouvernement menacent nos emplois. Enfin, je suis décidé à m'engager personnellement dans la lutte contre notre protection sociale. Les sanctions en matière d'allocation familiale doivent être effectives. Je me suis engagé à ce que le travail soit dévalorisé, que le mérite ne soit plus récompensé. Nous devons continuer à refuser toute augmentation sur le travail. Je confirme sans ambiguïté notre choix d'une fiscalité déloyale. Vous m'avez fait confiance pour ruiner la France. Je tiendrai mes engagements afin de construire un nouveau capital. J'avais promis lors de ma campagne électorale de mieux profiter de tant d'entre vous. J'appelle chacun aux rustines. Je vous remercie.
La voix
off et une polémique.
Je trouve ça un peu triste.
C'est vrai.
La seule chose qui manque, c'est les matraques et l'huile de ricin. Je voudrais quand même citer une petite anecdote. Récemment, dans le massif...
Les matraques, on les a, hein.
Oui, mais on n'en est pas encore à matraquer des gens comme toi ou moi, simplement parce qu'ils n'ont pas les idées du pouvoir, ça va venir. Mais, petite anecdote, dans un petit patelin du Massif Central, où notre génial président avait fait un déplacement, un syndicaliste de Sud a eu la surprise, le jour de la venue de notre président, d'être convoqué à la gendarmerie. Une fois arrivé à la gendarmerie, il a eu un entretien aimable avec une dizaine de gros bras qui lui ont clairement fait comprendre qu'il ne sortirait pas de la gendarmerie tant que la visite présidentielle ne serait pas terminée. On n'est donc plus seulement dans la situation où on déplace 300 CRS pour un déplacement dans une commune de 500 habitants dans le but de maintenir à 2 km de distance le moindre manifestant pour que les micros des caméras de télévision n'entendent pas les cris de ces manifestants.
Les caméras, très bien. Les journalistes incohérents, très bien.
On en est aujourd'hui à retenir entre les murs d'une gendarmerie, quelqu'un dont on sait qu'il est en opposition avec la politique du président pour l'empêcher tout simplement de l'exprimer au cas où il trouverait l'opportunité de l'exprimer. Je dirais que la prochaine étape, c'est effectivement les matraques et l'huile de ricin.
Alors on le rappelle, nous sommes en train de réécouter une émission spéciale Front National diffusée pour la première fois en 2011. Et ce qui est frappant, c'est le cas de le dire, dans le propos de Michel, c'est d'entendre notre ami redouter une montée des violences policières. Du matraquage, du flashball, du karcher, il y en a eu sous le règne de Sarkozy. Mais en réécoutant aujourd'hui cette émission de 2011, on réalise à quel point cette violence étatique s'est inscrite dans le quotidien du paysage français. La répression a continué à prendre de l'ampleur sous le règne du prétendu socialiste Hollande, qui a notamment fait matraquer et gazer des zadistes, des manifestants contre la loi travail et d'autres. Et ces violences policières se sont bien accentuées sous Macron, en particulier contre les gilets jaunes, mais tout ça, on le sentait déjà bien sous Sarkozy.
La voix
off est une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
C'est une plaisanterie. Mesdames et messieurs, on a peur dans un pays qui est un état policier. Oui, au fond, la principale cause de la violence, mesdames et messieurs, c'est la police. Les forces de police et de gendarmerie craignent totalement les policiers sauvages font régner la terreur devant des immeubles d'habitation. Quand on est policier, on a le sens de l'impunité, sans tabou. Dans un pays qui est un état de droite, je veux dire que les policiers qui font l'objet d'une décision de justice n'ont fait que leur violence aggravée. Comme ça, paf, en l'occurrence, j'ai demandé à Michel Alliot-Marie de commettre un braquage. Je veux 15 milliards d'euros. Parallèlement, nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française contre les policiers et châtier les parents des policiers de la BAC qui, de toute manière, ne vont plus à l'école. Je veux dire que les policiers qui se sont permis toutes les formes de violence sauvage se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de forces de l'ordre. Mais je voudrais que vous me compreniez. Grands ou petits, les policiers sauvages doivent être conduits dans leur pays. Tous. Tous. Par ailleurs, je vous annonce que caïds, délinquants, criminels, voyous, trafiquants, multirécidivistes sont les bienvenus. Il n'y a rien à leur reprocher. Pourquoi ? Parce qu'on ferme les yeux. Et je n'en veux à personne. Personne. Faut jamais accabler les gens. Je vous remercie de votre attention.
C'est un montage.
Mais je préfère l'excès de caricature que l'insuffisance de caricature.
Monsieur Sarkozy, croyez-moi, et s'il votait, il voterait Le Pen.
Ce n'est pas vrai.
Si, il se le pénise, ce petit. Eh bien, c'est bien.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Ça va peut-être vous étonner, mais Sarkozy, il est un député du Front National.
Ça, c'est un mensonge.
Pas du tout. J'ai toujours dit à mes auditoires que Sarkozy, c'est vraiment... Rogne, n'est-ce pas ? Par conséquent, il faut dire, monsieur Sarkozy, ne venez plus chez nous, car nous ne vous nourrirons plus. Bon, voilà.
La voix
off et une polémique.
Ces caricatures, c'est un imitateur.
Alors, on va continuer à faire du mauvais esprit, Michel. C'est bien joli d'aller manifester contre le Front National, mais on a déjà une partie de la politique du Front National qui est appliquée par l'actuel gouvernement.
Alors, effectivement, l'idée de manifester contre le Front National me paraît tout à fait respectable, dans la mesure d'abord où tout citoyen a le droit de manifester, et dans la mesure où les idées du Front National ne sont pas acceptables. Mais il serait bon qu'un certain nombre de personnes réalisent que les idées du Front National, pour une part, sont aujourd'hui en application et qu'il ne suffit pas de se réunir pendant 2 jours dans des manifs pour râler contre le Front National. C'est tous les jours qu'il faut agir. D'abord en étant indigné et révolté. Ensuite, en faisant part de cette indignation, de cette révolte. Et troisièmement, en réfléchissant pour trouver des idées alternatives, que l'on arrivera à résister à cette lente érosion qui fait que non seulement, malheureusement, le Front National progresse électoralement et reste toujours fort électoralement, mais surtout que ces idées ont contaminé une partie de la droite, voire Marine Le Pen revendiquer le fait de parler de l'occupation, comme elle l'a fait, est tout à fait symptomatique. Comme ça a été révélé par Montebourg, qui pour une fois a une bonne et saine parole, effectivement, l'extrême droite sous Pétain s'est compromis avec l'occupant allemand, a participé à la politique antisémite de Pétain. Elle cherche à le faire oublier. Comment le faire oublier? En prétendant aujourd'hui défendre la nation française sous une occupation et en stigmatisant une petite minorité malheureusement visible de personnes qui, après tout, par ce geste, n'ont qu'une prétention, c'est revendiquer le droit d'avoir des lieux qu'ils soient mis à leur disposition pour pratiquer leur culte. Et après tout, puisqu'il y a des églises et des cathédrales qui sont propriétés des communes de France, pourquoi ne pas envisager, sans subventionner les cultes, que l'on crée également des locaux qui soient assimilés à des mosquées pour que les musulmans, s'ils le souhaitent, puissent pratiquer.
Cela dit, il y a un tas d'églises vides qui servent à rien. On pourra peut-être les recycler, non ?
J'ai une solution, elle est bêtement économique. On n'a tout simplement qu'à regarder le taux de rentabilité. Il suffit de pratiquer l'ouverture de l'église le vendredi et de la pratiquer le dimanche. Et on compte le nombre d'entrées. Et si on valorise ce nombre d'entrées, on n'a qu'à attribuer le local à celui qui fait le plus d'entrées. Et je ne pense pas que les catholiques vont forcément être gagnants.
La voix off. Il s'agit d'un trucage.
N'essayez pas de caricaturer.
Écoutez, je suis de ceux qui pensent que la religion musulmane est une religion formidable. Et c'est tellement facile. Bon, par conséquent, moi je suis un musulman. C'est formidable. Et alors?
Bonjour ma peine et bienvenue sur Vert Sabat.
Oui, mais je ne suis pas contente. Je suis dramatique parce que je suis ruiné. Sur l'islam, je suis ruiné. Sous la robe, il n'y a ni sexe ni âge.
Votre père vieilli, usé, fatigué.
Oui. Évidemment, il a échoué. Et en plus, il est malhonnête, dans la démagogie la plus totale. Mais nous l'assumons pour pouvoir prendre le vélo, aller à la mine et faire les soldes, quoi.
Ma peine, vice du Front National était l'invité. Merci d'avoir été là.
Oui, non, mais évidemment.
Qu'est-ce que ça veut dire, là ?
C'est un montage.
Ça me fait rire.
André Ricam.
Je vais revenir sur ce que vient de dire Michel. Bon. Et en particulier, rebondir sur son allusion à 1940 et à Pétain. Lorsque Pétain prend le pouvoir, ou plutôt lorsque l'Assemblée vote les pleins pouvoirs à Pétain...
Une écrasante majorité, hein.
40. Nulle part, vous verrez que les députés français ont donné le pouvoir au fascisme, à l'extrême droite. Non. Et Pétain, il sauve la France, vous savez, il fait le don de sa personne, etc. C'est un brave bonhomme, hein, c'est le sauveur de Verdun, etc. Derrière Pétain, il y a les fascistes. Des vrais. Alors, les historiens aujourd'hui disent oui, il y avait bien sûr des fascistes, Doriot, le PPF, et tel ou tel groupuscule d'extrême droite qui se revendiquait directement de la pensée de Hitler ou de Mussolini. Mais Pétain, non. Bon, mais c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. On va faire une façade de l'extrême droite acceptable. Et puis derrière, il y a les fascistes. Les vrais. Bon, utilisons le mot. Il a la droite révolutionnaire, la droite fasciste, celle qui a rien abdiqué de sa vision de l'homme et de sa conception de la société qu'elle souhaite, profondément inégalitaire, élitiste, hiérarchique. Or, c'est cette idéologie de l'inégalité parmi les hommes fondamentale, c'est-à-dire qui fonde la société, elle est particulièrement favorisée par l'individualisme, l'arrivisme, les valeurs, si on peut dire, qui ont été développées par la société capitaliste ultra-libérale depuis une trentaine, une quarantaine d'années. C'est sur ce terreau de l'individualisme, de l'abandon des solidarités, de l'oubli de la lutte des classes, des solidarités sociales, que fleurit aujourd'hui l'idée que, oui, effectivement, les hommes sont inégaux. Pourquoi emmerder les gens avec ces idées d'égalité, hein, de démocratie, alors qu'il y a les bons qui réussissent, qui ont une Rolex à 40 ans, et les autres, les pauvres cons, quoi. On pense à s'amuser à ça, ils ont qu'à travailler. Le travail, ils travaillent et puis ils réussissent, quoi. Enfin, vous voyez, en fait, le climat est éminemment favorable au développement des thèses fascistes, des thèses inégalitaires, des thèses qui reviennent sur les grandes idées du XVIIIe siècle et des Lumières. Et je pense que le passage, le basculement de la France dans cet avenir fasciste que je crains, il est favorisé aujourd'hui, il est possible. Et donc, le combat contre le Front National consiste pas à stigmatiser un Front National caricaturé, mais à combattre ses idées, à combattre le fond de ses idées. Et combattre le Front National, c'est combattre le libéralisme aussi, c'est combattre la société actuelle qui est fabriquée par des Sarkozy et avalisée par une quantité de pseudo-gauche. Hein. Cette société, si vous ne l'attaquez pas sur le fond, sur les principes, si vous ne revenez pas à ces principes qui sont des principes qui ont fondé la République, la démocratie et le socialisme en France, vous avez perdu contre le Front National. Je dirais que le Front National a déjà pour moitié gagné son combat dans l'individualisme, car en fin de compte c'est ça, l'individualisme favorise les idées d'extrême droite de façon fantastique. Et c'est insidieux, parce que ça se veut pas des idées d'extrême droite. Non, non, on ne fait pas de différence de sexe, on ne fait pas de différence de race, on ne fait pas... Mais en réalité, il y a une férocité dans les rapports sociaux qui favorise cette inégalité foncière que transporte l'idéologie fasciste. Combattre le Front National, c'est revenir à de véritables idées de gauche, car la gauche, elle existe. Ce n'est pas un mythe solaire, la gauche. On a voulu la faire disparaître pour pouvoir masquer les abandons politiques, idéologiques des socialistes. Alors on a dit non, tout ça s'est dépassé, c'est des vieilles lunes, mais vous retardez, mon pauvre monsieur, etc. Et ça fait un grand mal, parce que puisqu'il n'y a plus de gauche, pourquoi se battre pour des idées de gauche ? Et à partir de ce moment-là, vous abdiquez devant toute la droite, puis pas seulement la droite libérale, la droite extrême aussi.
Cette inégalité, qui est farouchement à l'opposé de notre devise républicaine, elle est malheureusement tellement entrée dans les mœurs qu'elle contamine tout simplement ceux qui nous dirigent. Je parlais tout à l'heure de dictature de l'exécutif. Je voudrais raconter une petite anecdote. Je ne citerai pas les noms, mais il y a 5 ans, un conseiller de l'Élysée, conseiller chargé entre autres de faire un certain nombre de travaux, d'instruire un certain nombre de dossiers, est arrêté à 5h du matin par la police à Paris. Il a assis à côté de lui une petite prostituée ukrainienne de 14 ans.
Ah, oh, je m'en souviens.
L'individu est arrêté. La première chose qu'il dit au policier, c'est « Laissez-moi, je ne vous concerne pas ». Et comme le policier lui demande ses papiers d'identité et lui fait remarquer qu'il est en train de violer la loi, cet individu a cette réponse faite au policier « La loi, c'est moi qui l'écris pour qu'elle soit appliquée par des gens comme vous. Elle ne me concerne pas ». Donc, nous vivons aujourd'hui dans un pays, mais je pense qu'on aurait pu entendre la même connerie dans la bouche d'un homme de gauche, ou qui se prétend de gauche, nous vivons aujourd'hui dans un pays où une certaine élite politique se croit au-dessus des lois, au-dessus du système qu'elle prétend contrôler. C'est bien pour ça qu'il est temps que le peuple reprenne le pouvoir, et c'est bien là qu'arrive le hiatus, car le discours du Front National prétend rendre le pouvoir au peuple, ce qui est en réalité un mensonge total. On ne verra que se développer encore plus ce système, comme dans tous les totalitarismes, comme ça a existé dans la Russie de Staline, comme ça a existé dans l'Allemagne d'Asie, dans le fascisme italien, et comme ça continuerait à exister aujourd'hui en France, car cela existe déjà. Il y a déjà des gens en France qui non seulement se pensent au-dessus des lois, mais se savent protégés par des systèmes et par des réseaux. Et lorsque ce genre de choses émerge, eh bien ça fait tout simplement le lit de l'extrême droite.
Au moment où Michel parle, nous sommes en 2011. Et à l'époque, il y avait des affaires qui chauffaient pas mal aux fesses de l'homme politique de droite, Éric Woerth. Conflit d'intérêts dans l'affaire dite Bettencourt, et puis de magouilles immobilières, notamment autour de l'hippodrome de Compiègne.
C'est une révélation totalement fantaisiste.
Trucage.
Éric Woerth.
Oui.
L'affaire Bettencourt.
Vous voulez que je dise, bon, j'ai déjà favorisé 25 000 fois la situation fiscale de Madame Bettencourt. Oui. Bah, je peux pas être plus clair.
Peut-être que je me marre, faudrait pas, mais je repense à la tête de ce pauvre Éric Woerth qui tombait des nues, qu'on vienne lui demander des comptes.
Pour parler simplement d'Éric Woerth et d'un petit problème, je dirais, dans sa gestion communale, la vente d'une partie de forêt de Ménial avec l'hippodrome et les bâtiments y attenant est parfaitement illégal. Ça a été dit par un ministre consulté là-dessus. Et la justice a également jugé que c'était illégal. Que dit M. Verf, grosso modo ? Ça ne peut pas être illégal puisque je l'ai décidé au profit de mes amis, que je côtoie tous les jours parce qu'à Chantilly, il y a un champ de course, et que ma foi, dans l'intérêt de la population, si je veux que l'activité des courses à Chantilly perdure, eh bien ma foi, je dois aliéner ce bien qui est un bien collectif qui nous appartient à tous au profit d'un certain nombre de personnes privées, parce qu'en retour, je pourrais en attendre un certain nombre d'avantages. Voilà la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Sauf que là, j'ai envie de demander la nationalité belge.
Voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale Front National qu'on vous a proposée pour la première fois en 2011. L'occasion de constater que la roue a bien tourné depuis, et pas dans le bon sens. Émission à réécouter avec plein d'autres via notre site polemixetlavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.